Bonsoir à toutes et à tous, c'est Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canut, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. On vous reprend immédiatement. Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. Donc, comme je l'annonçais tout à l'heure, c'est Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes, et on va démarrer par quelques annonces bien préparées.
Oui, bonsoir, bien préparé, je ne sais pas, mais quelques annonces déjà. Pour vous dire qu'on va démarrer par l'événement le plus proche, donc ce sera ce jeudi à 18h, ça va se passer à la Bourse du Travail, et c'est une réunion publique qui a été organisée par trois syndicats, la CGT, la FSU et Solidaires Rhône. Voilà, c'est assez intéressant parce que du coup, la thématique, donc, c'est pour lutter contre les idées de l'extrême droite. Je vais pas vous lire le petit texte qui accompagne, hein, vous allez chercher un petit peu sur un des trois syndicats. Voilà, le programme de tout ça. Voilà, ce qui est plutôt intéressant, voilà, c'est que c'est une base syndicaliste contre l'extrême droite, contre la préférence nationale qui essaie d'infiltrer partout, y compris même dans certains syndicats, et pour l'unité de toutes et tous. Alors c'est plutôt intéressant parce qu'il y a, ça fait un petit moment qu'il y a des formations internes dans chacun de ces syndicats-là, mais il n'y avait jamais eu trop de choses en commun. Donc là, c'est un premier essai avec cette réunion publique, et en espérant que ce front syndical pourra aussi aller un peu plus loin et pourquoi pas organiser d'autres choses dans les mois qui viennent, voilà, pour mobiliser un peu plus que ce que mobilisent les mobilisations antiracistes et antifascistes, voilà, en espérant qu'il y ait du monde à cette réunion publique et que derrière ça embraye sur d'autres choses, parce que voilà, ça peut être intéressant si au niveau des syndicats aussi, voilà, ils prennent ce combat-là, alors comme il le faut, c'est-à-dire que l'urgence en ce moment, enfin en tout cas le développement, on y reviendra tout à l'heure, de tous les groupuscules et des idées racistes partout dans la société, y compris forcément dans le travail, dans le monde du travail. Donc demain à 18h à la Bourse du Travail. Alors j'ai pas le nom de la salle, mais ce sera sûrement indiqué quand vous y arrivez. Voilà, si vous n'êtes pas disponible pour ces réunions publiques, il y a autre chose, c'est le même jour à 19h, ça se passe à la librairie Terre des Livres. Voilà, donc c'est une pièce de théâtre qui est adaptée de La Zone du Dehors de Alain Damasio. Donc voilà, on vous invite du coup à aussi aller là-bas. Donc ça ferait 18h à 19h, c'est un peu juste pour faire les deux, mais bon voilà, vous pouvez éventuellement choisir, vous couper en deux si vous êtes plusieurs, voilà, pour partager un peu les lieux. Donc voilà, que je vous dise toutes choses. Donc ouais, donc c'est après La Zone du Dehors et Le Dehors de toutes choses. C'était, si vous cherchez les bouquins, c'est édition La Volte, et donc c'est interprété par Benjamin Maillet, mise en scène Nicolas Guépin. Terre des Livres, c'est 86 rue de Marseille, dans le 7e, et c'est entrée libre au chapeau, donc voilà, profitez-en aussi. Ensuite on passe à ce week-end, samedi à 15h30, une mobilisation en solidarité avec les salariés de Webus. Webus, c'est ces fameuses compagnies là qui ont été créées sous l'ère Macron. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure sur la grève, justement. Mais du coup, voilà, il y a le rassemblement, enfin, en tout cas, un rassemblement de solidarité qui est appelé samedi parce qu'ils se remettent en grève ce samedi. Voilà. Ah, merci, t'es grillé ton.
Non, du tout, de manière illimitée.
Donc voilà, il y a un article plutôt bien. Enfin, vous allez voir sur Rebellion, je crois qu'ils avaient déjà traité un peu le truc. N'hésitez pas à aller voir.
Ça sera beaucoup plus court.
Oui, après voilà, non, mais ça ira très bien. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur l'agenda de Rebellion, il y avait aussi du coup la permanence du collectif d'autodéfense et d'action féministe. Vous envoyez un petit mail, il y a une adresse du coup sur le lien sur Rebellion, vous envoyez un mail pour avoir le lieu. Et donc voilà, donc c'est une permanence qui sera mensuelle de soutien en non-mixité. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à aller voir déjà l'article de présentation de ce collectif. Et puis du coup à vous rendre à cette permanence, je ne sais pas si vous voulez en dire deux mots de plus ou pas.
Oui, non, bah, je crois que tout a été dit. De toute façon, ouais, on en avait déjà parlé dans...
Oui, on avait déjà lu le texte.
Dans les autres émissions, tout ça. Mais voilà, en tout cas, moi, j'en fais partie. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir et tout pour discuter des méthodes, réactions, tout ça, et même d'autres trucs qui concernent le féminisme.
Voilà. Et j'avais autre chose, mais c'était ailleurs dans mes papiers. Je vais essayer de le retrouver. Alors, c'est pas sur Lyon, c'est sur Paris. Parce que du coup, tous les ans, depuis l'assassinat de Clément Méric, du coup, il y a une mobilisation, notamment sur Paris. Alors, il y a peut-être quelque chose pour nous là le week-end d'après, mais on en reparlera un peu plus tard à l'émission de la semaine prochaine, sûrement. Voilà, juste pour rappeler que voilà, c'était il y a 4 ans déjà, hein, c'était le 5 juin 2013. Clément Méric, donc syndicaliste et antifasciste, était assassiné à 18 ans par des militants d'extrême droite. Bah, du coup, voilà, comme tous les ans sur Paris, il y a des mobilisations. Donc ça se passera le samedi 3 juin de 13h à 17h avec atelier, débat, village du livre antifasciste et à 17h une manifestation. Donc voilà, on vous invite, si vous êtes sur Paris, à vous rendre à cette mobilisation. Et du coup, on va passer du coup au premier point. Du coup, un petit point antiraciste, antifasciste, notamment. Voilà, vous avez sûrement entendu parler de cette tentative d'ouverture d'un squat fasciste dans le centre de Lyon. Du coup, on va vous lire le communiqué tout frais, tout neuf, hein, qui a été publié cet après-midi du groupe du coup de la CG à Lyon.
Voilà, donc voilà, communiqué. Ne laissons pas les fascistes proliférer dans notre ville. Stop à la complaisance et halte à l'impunité. Un nouveau local fasciste à Lyon. Nous avons appris l'ouverture samedi 27 mai 2017 d'un nouveau local d'extrême droite, le Bastion Social, par les militants du groupe Union Défense, groupuscule nationaliste et fasciste. Ce squat s'ajoute aux nombreux autres locaux de l'extrême droite lyonnaise qui a fait de Lyon le centre des groupuscules fascistes et nationalistes en France. Le but affiché du Bastion Social serait donc de venir en aide uniquement aux sans domicile fixe blanc et de nationalité française abandonnés par les pouvoirs publics. Selon le GUD, les migrants et migrantes auraient droit à toute forme de prestations et d'aide sociale, alors qu'en réalité, ces derniers et dernières sont exclus de la majorité de ces dispositifs, y compris pour le logement. Rien de nouveau ici, l'extrême droite monte les pauvres les uns contre les autres, rendant les uns responsables de la misère des autres. Ce genre de réquisition s'inspire directement des fascistes italiens de l'organisation Casa Pound, qui tentent de lier une pratique nationale et sociale. Mais cela ne doit pas cacher le vrai sens de cette ouverture, obtenir un lieu pérenne en centre-ville qui permettrait notamment de loger et de former des militants fascistes, ainsi que de pallier aux difficultés de l'actuel local du GUD à Saint-Just. Vers un nouveau laisser-faire des autorités publiques et des médias, un article du Progrès daté du lundi 29 mai et repris par Lyon Mag relate l'ouverture du squat présentant les militants du GUD sous le meilleur jour, comme des lycéens, des étudiants, des jeunes travailleurs, des quinquagénaires, bref, des associatifs. Pourtant, les militants du GUD sont coutumiers des faits de violence. Nombre d'entre eux ont été déjà condamnés pour agressions racistes, voire armées, et certains sont encore en prison. La lecture des différentes pages de réseaux sociaux liées au Bastion Social nous apprend la venue d'un huissier de justice lundi 29 mai au matin. Cette information pourrait laisser envisager une volonté des autorités publiques de se débarrasser du local fasciste situé à deux pas de la place Bellecour. Pourtant, samedi 27 mai, à l'ouverture publique du squat, la police était déjà venue sur les lieux sans procéder à l'expulsion. Pour souligner le laxisme sélectif des autorités publiques de Lyon, nous remarquons que les expulsions des squats et bidonvilles de migrants, migrantes ou de militants progressistes sont systématiques et récurrentes, y compris pendant la période dite de trêve hivernale. Face au fascisme, riposte populaire. À Lyon comme ailleurs, le fascisme continue de se banaliser et de s'implanter dangereusement, surfant sur un fond pseudo-social mais s'attaquant systématiquement à toutes les bases de solidarité entre les exploités, organisations progressistes, syndicats, mouvements révolutionnaires. Face à l'impunité et au laisser-faire des autorités publiques, il est de la responsabilité de chaque organisation, groupe, personne et association de s'organiser pour barrer la route à l'extrême droite en faisant vivre les valeurs d'internationalisme, de solidarité et de progrès social et en s'organisant ensemble. Les luttes concernant les logements pour tous et toutes, l'accueil des migrants, les prestations sociales insuffisantes de l'État doivent être menées par et pour les concernés. Nous nous devons donc tous et toutes de nous organiser ensemble face au groupuscule et à l'idéologie fasciste à Lyon et dans toute la France. La coordination des groupes anarchistes de Lyon appelle chacun et chacune à la vigilance collective et à se tenir informé des différentes actions et mobilisations futures contre l'extrême droite. face au fascisme, tenons le terrain au coude à coude. Vous pouvez également venir, vous pouvez également venir directement discuter et lutter avec nous à la Plume Noire, au 8 rue Diderot, Lyon 1er. Après, on rappelle les heures de permanence, mais de toute façon, on les dit à chaque fois. Donc,
en fin d'émission, voilà, ça c'est pour le petit topo. Voilà, si vous suivez un petit peu aussi ce qui se passe, il y a quelque chose qui est appelé prochainement. C'était juste pour revenir un petit peu sur le... Parce que du coup, c'est pas très développé. Enfin, du coup, on ne pouvait pas non plus faire un communiqué de 25 pages. Hein, mais par rapport à Casa Pound, ce qu'il faut savoir, si vous allez chercher un petit peu ce qui se passe en Italie, c'est que ça fait un grand moment maintenant à Rome, en plein centre-ville de Rome, que Casa Pound, donc du coup, groupe fasciste local là-bas, a du coup réquisitionné un immeuble et ça a fonctionné, puisque ça fait des années qu'ils l'ont, et c'est un immeuble de 8 étages, en plein centre de Rome. Donc, ils ont un logo avec un drapeau, voilà, enfin, un immeuble, tout ça. Il y a 80 personnes qui y vivent. Donc voilà, ce qui est le danger qui guette un petit peu, voilà, sur cette tentative d'ouverture sur Lyon, c'est que ça s'inspire vraiment sur ce modèle. Alors c'est pas anodin si ça se développe maintenant sur Lyon. Alors c'est pas nos amis les Gudards, nos amis les Bêtes qui ont eu l'idée comme ça en se réveillant un matin. C'est qu'il y a quelqu'un du coup qui est venu d'Italie, hein, qui est là depuis le mois de septembre. Alors je sais plus s'il bosse sur le magasin de vêtements ou sur le salon de tatou, mais aux vêtements, voilà. Mais grosso modo, voilà, il vient de ce groupe-là, de Casa Pound en Italie, donc a dû apporter quelques idées à nos idiots locaux. Et donc voilà, donc ils tentent ça. Donc voilà, ça peut paraître juste un coup de pub, comme pourraient le faire de temps en temps les identitaires, dont on reviendra dans quelques minutes, voilà, sur leur nouveau coup de com. Et ça a l'air du coup un peu plus sérieux que ça. Donc voilà, il y a de quoi s'inquiéter mine de rien. La ville de Lyon et la préfecture, qui d'habitude s'empêchent pas d'expulser des squats en plein hiver, même s'ils sont ouverts légalement, ça veut dire avec une ouverture de compte et notamment l'électricité de 48 heures, etc. Ça les empêche pas de tabasser les gens qui sont à l'intérieur et de les virer. Là, voilà, tout se passe bien pour les militants fascistes du GUD. Voilà, donc a priori dans l'après-midi, les flics qui sont venus, qui ont coupé l'électricité, a été remis. Enfin, on comprend bien pas trop ce qui se passe par là-bas. En tout cas, ils continuent à retaper les lieux. En tout cas, ils peuvent très bien les retaper, se faire expulser. Ça fera un logis, peut-être des jolis logements, voilà, pour tout le monde. Tout en sachant, voilà, on espère que ça va vite se tasser tout ça, parce que si ça se fait tout, si la ville et la préf ne passent pas un peu la vitesse supérieure, comme ils le font d'habitude pour les squats, notamment pour migrantes et pour tout le monde d'ailleurs, c'est que, voilà, ils risquent d'avoir un procès, mais que dans plusieurs semaines, ce qui laisse vraiment le temps à ces gugus de s'installer, etc. Donc voilà, en espérant aussi qu'il y ait, la pression un peu, voilà, dans les médias, on salue quand même l'article de Rue 89, parce qu'après l'article du Progrès, de Lyon Mag, le reportage de France 3 qui était bien moisi, présentant ces gugus comme des simples militants, alors que voilà, c'est quand même des néo-nazis. Voilà, l'article de Rue 89 était quand même assez bien fait, rappeler un petit peu justement l'historique de ce groupe-là, de ce qui s'est passé en Italie et ce qui se passe aussi en Espagne, parce que voilà, en Espagne aussi, dans plein centre de Madrid, ils ont réussi à réquisitionner et ouvrir un lieu du même type. Donc voilà, danger, voilà, donc on espère que ça va se bouger, tout ça, et que ce sera qu'un mauvais souvenir dans quelques temps. Et donc on enchaîne avec d'autres amis les Bêtes, hein, voilà, du groupuscus Cousi Génération Unitaire, qui essaie de lancer un truc. Alors c'est pas la première fois qu'ils essaient de se regrouper au niveau européen et de lancer des initiatives comme ça, mais là voilà, c'est assez... Ah, t'as pris le jus sur le micro.
Ouais.
Donc là voilà, ils tentent quelque chose, je te laisse du coup...
Du coup, c'est la branche italienne de Génération Identitaire, Génération Identitaire implantée en Sicile, en Italie. Leur truc, c'est qu'ils comptent affréter un navire en Méditerranée, pour s'opposer aux ONG humanitaires et à l'arrivée des migrants. Donc, ils ont lancé une campagne de crowdfunding pour l'instant, ils ont récolté 40 000 euros sur un objectif de 50 000. Donc, leur objectif, c'est arrêter l'invasion, comme ils disent, et chasser ceux qu'ils appellent les ennemis de l'Europe, donc c'est-à-dire les migrants et les ONG, du coup, qui aident un petit peu en mer, enfin, dans la mesure du possible pour eux. Je vais vous lire un petit extrait d'un article qui explique ça. La campagne de crowdfunding a été lancée sur un site privé qui s'appelle Defend Europe, donc Défendez l'Europe, en gros, ouvert le 13 mai dernier par Génération Identitaire et repéré par le journaliste Paul Conche sur Twitter. Le lancement de la campagne et du site font suite à un coup de communication orchestrée par la branche italienne du groupe d'ultra-droite. Selon la page Facebook de Generazione Identitaire, Pescetaria. Je ne parle pas l'italien, donc vous m'excuserez de l'accent. Mais voilà, donc leur gros coup de communication, c'est voilà, des grosses interventions avec des grosses banderoles, tout ça. Alors,
ouais, c'était mieux qu'un bateau, je crois. Enfin, ils avaient essayé de bloquer un navire qui allait sauver des migrants. Donc ils étaient sur un petit bateau, ils sont mis devant avec le drapeau, là, le symbole identitaire.
Ça.
Voilà.
C'est ça. C'est ça qu'ils disent. Une poignée de membres venus de différents pays d'Europe. Donc en plus, ils se rassemblent partout en Europe. Se sont en effet retrouvés dans le port de Catane, en Sicile. Ils ont tenté de bloquer le départ du navire Aquarius. Donc c'est un bateau de l'ONG SOS Méditerranée, une association européenne de sauvetage en mer. Les quatre activistes, selon l'ONG, ont rapidement été interpellés par les gardes-côtes italiens. Mais donc voilà, ils avaient le soutien des gars d'Allemagne, de France, d'Italie, enfin voilà. Donc je vous lis la fin. La véritable raison de la présence des membres de Génération Identitaire à Catane était le lancement du site Defend Europe, traduit en différentes langues et relayé par les pages Facebook des sections nationales du groupuscule. Sur la page française, on retrouve notamment ce texte. Les ONG bénéficient de beaucoup d'argent de la part des gouvernements et organismes pro-immigration. Nous ne dépendons que de vous pour financer cette mission et participer à la sauvegarde de notre civilisation. Mis à part la page dédiée au financement participatif, Génération Identitaire a créé une section « Notre mission », entre guillemets, où ils explicitent les raisons de cette initiative, notamment dans une vidéo tournée près du port de Catane. En anglais, quatre jeunes hommes expliquent que les ONG humanitaires trafiquent des centaines de milliers de clandestins et mettent en danger la sécurité de notre continent. Ils veulent donc tenir tête en mer au bateau des ONG et préparer une grande mission de sauvetage en Méditerranée, une mission pour sauver l'Europe. Ni la vidéo, ni le site ne donnent beaucoup de détails sur les actions prévues, mais ils notent qu'ils viendront bien évidemment en aide aux migrants en les raccompagnant jusqu'aux côtes africaines.
On compte sur eux, effectivement, pour le faire.
Oui, voilà, c'est un peu ce qu'on retrouvait aussi sur les Facebook des générations identitaires en France. C'est-à-dire qu'en gros, ils essayaient de faire passer un peu le truc en mode on va aider les migrants, on va les sauver et les raccompagner, on va sauver l'Europe, machin. Alors que bon, concrètement, les ONG les ramassent déjà dans la mer, donc faut pas non plus se leurrer. Et je pense que ce sera surtout veiller à ce qu'ils se noient bien avant d'arriver sur les côtes.
Ouais, qu'ils arrivent à payer leur bateau et qu'ils soient après réquisitionnés par une ONG. Voilà, ce serait plutôt sympathique. Comme ça aiderait. Wally Valou sur petite page Maestro.
Et tout ça, 40 000 euros. Quoi.
Ils ont déjà 40 000 sur 50 000. Ouais. Ça a des sous, hein, ces gens-là.
Ouais. Ouais.
Malheureusement.
Bon. On fait une petite pause musicale.
Ouais.
Hein,
tout à fait.
Donc, c'est ça
tout
que
fait.
Vous me demandiez du regard.
Du coup, je rajouterais juste un tout petit truc. C'est que, alors, on n'en a pas parlé, mais ça fait quand même deux semaines que c'est sorti. En Hongrie, le gouvernement a commencé à recruter des chasseurs de migrants. Parce que, du coup, alors, pour le rappeler, la Hongrie, c'est quand même un pays de... Ou en tout cas auparavant, avant que Viktor Orban construise la grosse frontière, où les migrants passaient beaucoup là-bas en fait pour revenir en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire France, Italie, Espagne, Allemagne, tout ça, et donc ils passaient par les pays de l'Est, dont la Roumanie, la Hongrie, tout ça. Et du coup, Viktor Orban, alors ce gros facho quand même, on peut le dire, qui est à la tête du gouvernement, a fait construire une grosse frontière avec c'est quelle frontière déjà
Je me souviens plus.
Et Slovénie, je crois, un truc comme
ça. Je ne sais plus, on va pas dire de bêtises, mais du coup, voilà.
Bon, en tout cas, on ne sait plus très bien, mais bon, clôture. Bref, du coup, voilà, ils ont vraiment une politique ultra dégueulasse, quoi, en mode... Bon, de toute façon, on fera un gros dossier là-dessus, sur toute la problématique de la Hongrie, qui est quand même bien dans la merde au niveau du gouvernement, bien à droite, tout ça. Ça fait des années que ça dure, et c'est intéressant quand même de savoir ce qui se passe, quoi, parce que vu la tournure qu'on est en train de prendre en France, ça peut être pas mal de pouvoir analyser ça, même si c'est pas la même situation politique, même si c'est pas la même histoire, tout ça, donc voilà.
Parce que j'ai juste quelques chiffres, parce que ça peut donner quand même un ordre d'idée par rapport au nombre de migrants qui essayent de passer et ceux qui sont accueillis. En 2013, il y en avait eu nombre de demandeurs d'asile, hein, donc qui font leur demande officielle, qui arrivent au pays, qui demandent. En 2013, il y en avait 18 900, il y a eu 198 demandes acceptées. En 2014, 42 000 demandes, 260 acceptées. En 2015, 177 000 demandes, 146 acceptées. Et en 2016, 30 000 demandes et 154 accepté, ce qui donne du coup aussi en 2015-2016, en 2015 surtout, quoi, 400 000 entrées illégales, mais c'est logique, enfin voilà, quand il y a des pays qui ne peuvent pas jouer le jeu non plus, voilà, enfin, ça peut donner ça. Donc voilà, enfin, effectivement, on fera un grand point sur Orban et compagnie.
Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai retrouvé les frontières, en fait, c'est. Il a quoi ce micro? Bon. Du coup, il recrute des chasseurs frontaliers, en fait, c'est le nom officiel d'un nouveau corps police. Un nouveau corps de police. Et du coup, la création, c'était en août 2016, donc ça remonte quand même un petit peu. Et c'était en pleine campagne du référendum anti-migrant. L'objectif, c'était de recruter 3000 personnes pour assister les 10 000 policiers et militaires qui sont déjà déployés sur les frontières serbes et croates, du coup. Voilà. C'est sur les voilà. Du coup, ils ont déjà déployé des grosses frontières surveillées tout le temps, des militaires partout. Voilà,
c'est le même modèle.
C'est ça. Bon, allez, pause musicale.
Cette fois, pause musicale, on va écouter la réplique. Le cul entre deux chaises. Voilà, c'est parti.
Partout je vois mes vieux potes occupés à glander. Les mêmes bars, les mêmes bières, c'est vrai qu'ils ont pas trop changé. La différence au fond c'est juste que dès qu'ils parlent d'eux, ils sont toujours aussi cons, en plus ils sont sérieux. Et moi je suis toujours là, vivre nos voix, à faire marrer les gens avec leur désespoir. Et moi je suis toujours là, star des comptoirs, à picoler du rouge au débroyé du noir. Ils me racontent leurs problèmes auxquels je comprends rien, d'autant plus que je sais même pas. Comme ils ont l'air pas bien, ouais ben je les écoute quand même. Putain comment je les plains d'avoir des pourris morts comme ça. Et moi je suis toujours là, pitre notoire, à faire marrer les gens avec leur désespoir. Et moi je suis toujours là, star des comptoirs, à picoler du rouge au lieu de broyer du noir. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce petit con énervé qui venait à ton anniversaire mais qui plaisait pas à ton père à cause de sa tenue négligée. Mais toi non plus tu n'as pas changé. Toujours le même type un peu coincé qui nous parlait de révolution puis qui rentrait vivre chez ses parents. Non toi non plus tu n'as pas changé. Moitié rangé, moitié engagé. Je sens à rien, t'es punk dans ta tête. Toujours le cul entre chaise. T'as plus de boulot, plus de femme, trois gosses, et puis tu picoles. T'as pas le cul sorti des ronds, c'est pourtant à l'école. T'étais le meilleur, plein de promesses, t'y avais même des projets. Tu fais la manche devant la messe, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et moi je suis toujours là, pitre notoire, à faire marrer les gens avec leur désespoir. Et moi je suis toujours là, picoler du rouge au lieu de broyer du noir. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce petit con énervé qui venait à ton anniversaire mais qui plaisait pas à ton père à cause de sa tenue négligée. Mais toi non plus tu n'as pas changé. Toujours le même type un peu coincé qui nous parlait de révolution et qui rentrait vivre chez ses parents. Non toi non plus tu n'as pas changé. Moitié rangé, moitié engagé. Tu ressembles à rien, t'es punk dans ta tête. Toujours le cul entre deux chaises.
Rebonsoir, vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de la coordination des groupes anarchistes. Et nous allons enchaîner après cette pause musicale avec un premier jet de lutte sociale.
Eh bien, c'est parti pour Salaise-sur-Sanne, des voisins donc du département 38, avec un processus de restructuration chez Linde Gas, qui est une entreprise qui produit du gaz pour les hôpitaux et qui est classée Céveso. Ce n'est pas la première d'ailleurs de restructuration que subissent les salariés de cette entreprise, puisqu'en 2015, quelques emplois avaient été sauvés grâce à une lutte farouche. Aujourd'hui, c'est un projet de fermeture carrément de 5 sites et 140 emplois supprimés sur 740. Alors donc, il y a eu un mouvement de grève illimité à défendre l'emploi contre des mesures de profit toujours plus juteux, car l'entreprise n'a aucune difficulté financière. Il y a eu la même grève, je dirais, à Porcheville, dans le département 78, donc le même motif, mais la grève a pris fin après une semaine afin de négocier en paix. Donc, au Portet-sur-Garonne également, toujours la même entreprise, avec une grève le 19 qui a été suspendue un petit peu plus tard du fait de l'activité de ligne de gaz qui fournit, donc je rappelle, des gaz pour les hôpitaux. Une certaine catégorie de personnel ont été réquisitionnés. Et dans cette ville, donc au Portet-sur-Garonne, le site en fait n'est pas touché par ces mesures de fermeture. Et la grève était solidaire ici avec la CGT, la CGC et la CFDT, avec 95% quand même de participation. Allons sur la capitale maintenant avec donc Paris et bien sûr avec l'hôtel Campanile Eiffel dans le 15e arrondissement. C'était le 22 mai avec une suite aux pressions constantes et promesses de postes non tenues, d'augmentation d'horaires, de revalorisation salariale et autres, donc toujours non tenues. Alors c'en était trop pour les 15 salariés compte tenu d'une grève de un mois il y a un an. Et ils sont repartis en grève ce 22 mai pour une grève illimitée avec la CGT. Activité réduite donc dans cet hôtel du groupe Louvre Hôtel. Il y a un an, donc en 2016, il et elle avaient obtenu des avancées significatives, comme on dit pendant ces moments de négociation, c'est une formule tout bonnement, donc ils avaient obtenu un 13e mois, de meilleures conditions de travail qui ont profité à tout le personnel du groupe, l'ambiance, les relations avec la direction devaient s'améliorer. Or, à ce jour, c'est tout le contraire qui se passe. La direction sème la zizanie, la discorde, pour disloquer l'unité des travailleurs et travailleuses et toutes sortes de misères visant les plus faibles. Alors, discours habituel de la direction, l'étonnement qui la prend, étonnement du mouvement et qui invoque aussi cette direction un dialogue social et constructif depuis 2016. Je dirais mon œil, parce qu'on ne se met pas en grève comme ça pour un rien, pour un oui, pour un non. Donc constructif pour la direction à un point que le campagne... Enfin constructif, je dirais, à un point quand même, c'est ironique de ma part, à un point que le Campanile Villette, donc un autre hôtel, restaurant, dans le 19e arrondissement de la capitale, sera lui aussi en grève avec rassemblement de soutien conséquent. À Nueil-les-Aubiers, charmante petite bourgade, oui. N'est-ce pas ? Ben oui, c'est dans le département 79 qui, elle, est de Sèvres. Je le sais parce que j'ai fait un concours pour la Poste et puis j'ai dû apprendre tous les départements. Donc là, ici, à Nueil-les-Aubiers, c'est un abattoir de volailles du nom de gastronome, s'il vous plaît. Les 24, 26 et 27 mai, la CGT envoie donc la grève pour obtenir une revalorisation salariale. La complémentaire santé également, qui est demandée à être prise en charge du mieux possible, ils réclament 70%. En fait, Gastronome est devenu aujourd'hui Galliance, avec 60 salariés qui ont bloqué le site et filtré tout ce qui entrait et tout ce qui sortait. Galliance, donc c'est son nom, c'est aussi Terena, la maison mère, qui pèse 5,2 milliards d'euros dans l'année 2016 et qui chouchoute ses cadres. Le variable d'ajustement, quant à lui, est dans les discussions, une sorte de tactique patronale, en fait. Le variable d'ajustement, vous savez ce qu'il c'est, c'est nous, les salariés, en fait. Voilà. La méthode des vases communicants, adaptée donc aux travailleurs et aux travailleuses. Il y a 17 sites Galliance en France. La direction a donc tout refusé des revendications, et je les cite encore une fois ici, pour des raisons d'équité au sein du groupe. Idem, bien sûr, pour la mutuelle. Alors ça ne fait, et ça ne se fait pas ailleurs, toujours en les citant évidemment. Et par contre, la médaille du travail a eu l'assentiment du patron, enfin de la DRH. Et puis, pour terminer sur cette lutte, la gendarmerie était sur place, comme un fait exprès. Donc, les gendarmes, d'après les nouvelles, étaient un peu abattus par la bonne organisation de la grève, quand même. C'est à noter.
Déjà ça ?
C'est à noter, et c'est déjà ça, oui. Passons maintenant avec une suite, c'est sur Vénissieux et sur Lannion, avec la société Cilia. Des salariés qui sont en grande difficulté, ça dure depuis quand même quelques mois, voire peut-être quelques années. Ils sont respectivement 130 à Vénissieux et 45 à Lannion pour la production de panneaux voltaïques, de photovoltaïques exactement, activité reprise à Bosch par cette société bretonne en 2015. Et puis, patatras, c'est l'écroulement. La direction même accuse les ouvriers de ne pas vouloir travailler. Bah, allons donc. Risque donc de fermeture totale, dépôt de bilan, etc., enfin tout le processus. Et le mercredi 24 mai, le tribunal de commerce de Lyon a reporté la décision de fermeture des deux sites qui sont quand même en attente, encore une fois, de repreneurs. À Rion, dans le Puy-de-Dôme, là aussi c'est une suite, ça concerne Imperial Tobacco qui a repris, on se rappelle aussi, l'activité Seita, c'est-à-dire qu'on roule les cigarettes. Voilà, c'était le 22 mai avec une grève et blocage de l'usine et dépôt de stockage. Alors ici est dénoncée, bien sûr, la fermeture prochaine, 329 suppressions d'emplois, et identique chez les sous-traitants, évidemment. Mouvement qui, dans le même temps, a amené une lutte pour une juste négociation du plan social. Alors, il est exigé 50 000 euros plus un mois par année d'ancienneté, avec un minimum à 40 000 euros. Là, la direction irait dans ce sens, mais c'est pas gagné. Et il y a aussi, ce qui est intéressant, un projet de créer une SCOP selon la CGT. Donc, je pense qu'on peut dire à suivre. À Saint-Claude maintenant, et pour finir cette première page de lutte, Saint-Claude, donc dans le Jura, c'était le 22 mai avec une grève à l'hôpital de la ville, avec un préavis posé pour 2 mois. Alors le souci, ici également, c'est l'ARS qui fait des misères donc, à cet établissement public qui est dans le collimateur de l'ARS, dont plusieurs services. L'établissement est sous tutelle donc de l'ARS. L'intersyndicale est sur le pied de guerre depuis l'annonce le 18 mai de cette voilà, l'établissement est sous tutelle de l'ARS, l'intersyndicale est sur le pied de guerre depuis l'annonce ce 18 mai de réorganisation, voilà, je l'ai trouvé. Un comité de défense a été mis en place, c'est à noter également ça. Une manif donc le 13 mai avec près de 5000 personnes. Une assemblée générale des personnels établira aussi l'ordre du jour d'une rencontre avec les deux directeurs nommés par l'ARS. Alors leur rôle, c'est d'administrer provisoirement le centre hospitalier qui subit bien sûr les affres de la suspicion depuis le début de cette année. Et pendant ce temps, discrètement, l'hôpital privé de Saint-Claude du groupe Elzan fait sa pub, vante son confort, la clinique à la carte. Et la carte, on parle bien ici de restauration. Il y a même un artiste de la restauration, bouffé, croûté. Donc, il y a même un artiste peintre qui a redécoré les murs. Il précise qu'il est indépendant. Alors, je pense que quand même, dans les artistes, il n'y a pas trop de fonctionnaires quand même dans les artistes. C'est terminé pour cette première page. Donc, il y a toujours de la bagarre un peu partout, dans tous les domaines, dans toutes les branches, dans tous les métiers, et partout, partout, partout. Voilà. Et c'est pas fini.
Non, c'est pas fini, non, ouais. On va enchaîner avec totalement autre chose. Alors, ça fait 2-3 semaines, je crois, que je voulais traiter du sujet, mais on n'avait jamais eu soit trop le temps, soit j'étais pas là. Donc, je vais en faire une partie ce soir, et je pense la deuxième partie la semaine prochaine, parce qu'autrement, ça va être un peu trop long, parce que c'est déjà 8h35. Voilà, c'est pour vous emmener en Turquie, où les exécutions de femmes par la police se poursuivent. Alors au départ, l'article voilà est daté du 6 mai, hein, donc ça fait à peu près trois semaines que je voulais vous en parler. Donc on va le faire quand même aujourd'hui parce que du coup le 6 mai, voilà, il y avait de nouveau une femme militante, donc Sila Abalaye, qui a été exécutée par la police dans son quartier. Elle avait 18 ans seulement. Voilà, deux personnes se trouvant dans la maison ont été en plus mises en garde à vue. Voilà, la police a annoncé comme d'habitude des affrontements, toujours entre guillemets, hein, et les médias alliés au régime ont informé, entre guillemets toujours, l'opinion publique d'une voix unanime, voilà, qu'elle faisait partie d'une organisation terroriste. Donc ces pratiques d'exécution, alors c'est pas un fait isolé en Turquie, voilà, donc pratiques d'exécution sans jugement, hein, et elles se répètent depuis 2 ans en fait. Depuis 2 ans, ça fait la 6e personne, voilà, qui est exécutée comme ça chez elle pour le plus souvent. Malgré surtout le fait que les proches, amis ou autres témoins apportent leur témoignage, expliquent qu'elles ont été tuées dans des conditions qui ne peuvent en aucun cas justifier leur mort, elles sont relayées par les médias au service du régime, toujours avec le même refrain. En gros, donc il n'y a pas de procès ni jugement, une simple exécution. Et voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu qui étaient ces 6 femmes exécutées depuis maintenant 2 ans. Et sur ces méthodes policières en Turquie, voilà, donc en plus des purges, des expulsions, des arrestations, des tortures, etc., voilà, il y a aussi des exécutions. Donc la première, c'était Günay Özarsan. Elle a été tuée par la police le 24 juillet 2015 lors d'un raid dans le cadre d'une des opérations ciblant du coup un parti là-bas local. Elle avait 30 ans. Voilà, donc les médias ont servi entre guillemets l'information en présentant Günay comme bombe humaine. Avant sa mort, elle avait été inquiétée à plusieurs reprises, mise en garde à vue avec un procès à son encontre. Son avocat déclarait après son exécution que la police s'est introduite dans la maison en cassant la porte et a tué Günay qui se trouvait dans une des pièces. Ses proches présents dans la maison lors du raid expriment qu'il s'agit d'une exécution. Sa dépouille, eh ben, n'a pas pu être inhumée pendant des jours. Les funérailles, qui est au Semevi, qui est un lieu de prière à Lévis du quartier Gazi, ont été attaquées également par la police et plusieurs personnes ont été arrêtées. Elle a pu être inhumée enfin après deux jours de tension et avec la médiation des députés du CHP et du HDP. Depuis 2015, 2 ans sont écoulés. Aucune preuve qui confirmerait la thèse de cette fameuse bombe humaine relayée par les médias alliés. Voilà. La deuxième, c'est Dilek Doğan. Elle a été exécutée le 18 octobre 2015 lors d'un raid, toujours pareil, à son domicile à Istanbul. Elle a reçu une balle tirée par les policiers qui s'introduisaient dans sa maison, à qui elle a dit « mettez des chaussons en plastique ». Dilek, gravement blessé, a succombé à l'hôpital 8 jours plus tard, le 25 octobre. Sa mère déclarait après sa mort « les policiers sont entrés dans la maison avec leurs chaussures. Ma fille leur a juste dit de mettre des chaussons de protection et d'entrer après. Il y a eu une discussion, un bruit de tir et ma fille s'est écroulée. » Après le coup tiré, nous avons vécu un moment de bousculade avec les policiers, puis nous avons transporté Dilek à l'hôpital. Donc voilà, donc le policier qui a tué Dilek donc a été jugé. Pour une fois, une peine de prison de 20 à 26 ans avait été demandée à son encontre pour mort donnée intentionnellement et utilisation du matériel public pour le crime. Et ben, le tribunal d'Istanbul a condamné le policier à une peine seulement de 6 ans et 3 mois pour mort causée par négligence. On imagine bien que c'était un fait de négligence. 2 autres victimes, Sirin Otter et Yeliz Erbey, qui ont été exécutées dans le quartier Paris vers Istanbul. Le 23 décembre 2015, elles ont été tuées lors d'un raid dans leur maison de nouveau. Leur exécution, afin d'être légitimée, a été servie par les médias alliés comme tuées lors d'une opération antiterroriste. La méthode avec laquelle Sirin et Yeliz ont été tuées est particulièrement préoccupante et se différencie des autres cas. Il s'agit de tirs à bout portant. Les rapports d'autopsie relèvent de nombreuses balles tirées à courte distance sur le corps de Yeliz. Quant à Sirin, 6 balles ont traversé sa poitrine, 1 balle son ventre et 2 balles son vagin. Dylan Kortak, elle, a été exécutée dans un autre quartier lors d'une opération aux Aurores le matin du 4 décembre 2015. Elle avait 19 ans seulement. Son avocate exprime avoir constaté en personne que Dylan avait été mitraillé par les policiers par arme automatique. Elle a été comme d'hab présentée dans les médias alliés comme une bombe humaine. Voilà, son prême Ibrahim Kortak dit « Ce sont des exécutions effectuées par l'État. Je suis convaincu que ma fille a été exécutée, elle était seule à la maison, il n'y a eu aucun affrontement. Les témoins l'expriment également. Le procès donc se poursuit tant bien que mal malgré les efforts d'obscurcissement des preuves. » Une autre victime, Taybet Kansin, en octobre 2015 aussi, dans sa maison à Baglar, à Diyarbakır. Les preuves ont été cachées par un incendie volontairement provoqué par les policiers. Elle est seulement une des victimes des exécutions au Bakour. Nombreux sont les villes du Bakour comme Cizre, Diyarbakır et Nusaybin, mis en état de siège, qui ont été scènes d'opérations lors desquelles de nombreuses personnes ont été exécutées. Et donc la dernière victime, Sila Abalaye, donc le 6 mai, Voilà, donc la famille exprime son inquiétude sur une éventuelle dissimulation et travestissement des preuves. Et il y a un collectif de femmes qui a protesté, dénoncé son exécution. Donc voilà. Et donc ça, c'est voilà, c'est parmi ces six exécutions, pardon. Et je voulais juste vous parler aussi rapidement, puis je finirai le reste la semaine prochaine par rapport à des exécutions, puis aussi des gens qui sont en grève de la faim, alors comme c'est assez souvent le cas là-bas. Donc c'est deux enseignants qui s'appellent Nurier et Semi, qui ont été licenciés par un décret, voilà, un promulgué sous l'état d'urgence, comme ça a été le cas de nombreuses fois depuis ce fameux coup d'état du mois de juillet. Leur seule demande, c'est retrait du travail. Nurier fait partie des 4811 universitaires licenciés, dont 378 sont signataires de l'appel, d'un appel publié en janvier 2016 et intitulé « Nous ne serons pas complices de ce crime » qui critiquait les politiques militaristes et répressives du régime. Alors Nurier et Semi, molestés et mis en garde à vue à plusieurs reprises, résistent depuis 180 jours et entament une grève de la faim depuis le 11 mars dernier. Donc voilà, là on est le 31 mai. La semaine dernière, donc les dernières nouvelles datent de la semaine dernière, ils étaient toujours en grève de la faim. Le problème, c'est qu'ils ont été arrêtés par la police, mis en garde à vue. Et il y a eu du coup le 24 mai dernier, donc il y a juste la semaine dernière, les procureurs turcs ont requis jusqu'à 20 ans de prison à l'encontre des deux enseignants en grève de la faim depuis plus de 2 mois. Voilà, juste pour ce qu'ils protestent contre leur limogeage dans le cadre des purges. Alors on parle beaucoup des grèves de la faim. Voilà, on ne sait pas trop du coup ce qui se passe, notamment pendant une grève de la faim. Donc je vais faire rapidos. Il y a différentes phases en fait. Qui se passe, donc en plus ça fait plus de 2 mois qu'ils sont en grève de la faim. La première phase, c'est qui est d'habitude assez courte, donc se caractérise par toute la consommation des réserves en sucre, réserves peu importantes et destinées à faire face à des besoins énergétiques ponctuels. La deuxième phase, ça correspond à la consommation des graisses. Sa durée est très variable et dépend de la masse grasse totale de la personne. Et la troisième correspond à la consommation des protéines et donc les tissus dits nobles de l'organisme de manière progressivement irréversible. Donc ce qui donne notamment pour les premiers jours d'habitude, ça se passe assez bien malgré la sensation de faim et des spasmes gastriques importants. Ensuite, jusqu'à 3 ou 4 semaines de jeûne, le poids diminue de manière régulière. Donc 10 à 20 kilos en un mois, et plusieurs symptômes se développent pénibles, hypotension, donc ça veut dire vertige, un cœur lent, diminution de l'activité, des capacités de réflexion et de concentration, une fatigue extrême, douleurs musculaires, etc., etc. Et ensuite, il y a une phase de maladie qui apparaît avec des dégâts qui sont parfois irréversibles. Voilà, donc je vais pas tous vous les faire, voilà. Et la dernière phase qui est terminale, qui peut commencer dès le 40e jour, donc vous imaginez, ça fait quand même 2 mois qu'ils y sont, avec de l'euphorie, de la confusion, somnolence, troubles respiratoires et coma, le tout pouvant entraîner la mort en quelques heures. Donc eux qui étaient en grève de la faim depuis 2 mois, en plus du coup ont été arrêtés et mis en taule en attendant le rendu de leur procès. Donc il y a toute une solidarité qui s'est mise en place en Turquie mais aussi ailleurs. Je laisserai du coup jeter un coup d'œil à l'article assez long que vous pourrez trouver sur Kédistan. Donc voilà, que ce soit du coup notamment avec des communiqués dessus de la CGT et de la CNT au niveau de la France. Et donc voilà, et la semaine prochaine du coup on refera un petit point sur la Turquie parce que du coup là on parle du coup de pas mal de gens qui ont été emprisonnés et on fera un gros point sur les prisons de type F. Voilà, qui existent depuis les années 2000, voilà, qui sont des prisons assez spéciales en Turquie. Donc on fera je referai un point du coup sur la Turquie, sur ces prisons particulières, voilà, et comment ça se passe à l'intérieur, notamment pour les arrêtés de ces derniers mois. Donc voilà pour ce point sur la Turquie. On voulait faire une deuxième petite pause musicale, c'est ça ?
Petite pause musicale.
Eh ben, allez, let's go.
Allez, on va écouter Philippe Catherine qui va nous interpréter les êtres humains. C'est parti.
Yeah.
On revient sur Radio Canu avec l'émission Idées Noires de la CGA. Et on enchaîne avec une petite page de lutte sociale.
Ouais, une deuxième page, allez, c'est parti. Ben, on a parlé tout à l'heure de Webus là, pour le rassemblement samedi. Eh bien voilà, un petit compte-rendu léger, c'est donc à Lyon, hein, Webus, c'est une société filiale de la SNCF, on va dire spécialisée dans le transport en commun grâce à M. Macron, hein, bien sûr. Au tarif low cost, donc les salariés qui ont été, je dirais entre guillemets, débauchés de leur ancien emploi, leur précédent emploi, pour finalement bah, des queues de cerises au bout du compte, eh ben, ils sont en pétard et ils ont bien raison. Donc une nouvelle fois, une dizaine de personnes ont poursuivi donc, le mouvement, c'était le 28, donc le dimanche 28 mai, je dis une deuxième, parce qu'ils avaient déjà fait une première grève il y a quelques semaines. Les 17 que compte l'entreprise protestent, les 17 employés pardon, que compte l'entreprise protestent et il y a de quoi. Ils sont tout bonnement ben, réaffectés chez le cariste Fort des Carrefours, qui est une société privée, qui est en même temps un sous-traitant de la SNCF. Alors 6 000 euros leur ont été proposés pour ben, partir, aller dégager, quand le salaire chez Fort est de 500 à 600 euros plus bas que celui qu'il touche actuellement. Donc le compte n'y est pas, évidemment, pour rappeler que c'est une trouvaille, je l'ai dit, de M. Macron pour créer de l'emploi. Ben, la réussite est totale, totalement un fiasco. Et il y a également le même problème sur l'île, hein, je rappelle, et d'autres entreprises du style de Webus, donc dans cette fameuse libéralisation du marché national qui a commencé en 2015 pour l'emploi. Reste quand même sur le marché quelques entreprises de cet acabit comme Flixbus, Easyline et Webus. Donc Webus qui est quand même le numéro 2 avec 30 millions d'euros perdus en 2016. Donc comme je le disais, c'est une réussite totale de M. Macron, un fiasco total. À Guyancourt, maintenant, c'est dans le département 78, c'est la société Vortex Mobilité, qui est une entreprise également pour le transport, mais de personnes à handicap, donc à mobilité réduite. C'est une société prestataire du conseil départemental. Il y a eu une grève amenée par la CGT pour 50% du personnel, les autres 50% pour assurer un service minimum de 125 transports, alors qu'il en est assuré 250 habituellement. Alors les causes ici, ben, elles sont multiples bien entendu, puisque en un, ben, la direction veut imposer aux salariés un samedi travaillé de plus, en plus d'un samedi déjà travaillé et d'un dimanche travaillé qui avait été instauré il y a quelques mois ou quelques années. Donc ils ne sont pas d'accord pour cela. En deux, ben, c'est des emplois précaires qui sont à bannir, des CDD de trop évidemment. Et en trois, ben, ce sont les salaires bien sûr et les primes. La direction en début de grève refusait tous les dialogues. La direction, elle, est dans les roues, hein, cette direction. Et Vortex, qui s'est accaparé dans ce marché, entre guillemets, du transport handicapé, bah, accapare donc, selon les sources, donc, tout ce marché. Il ne fait que gruger ses salariés. Ils sont au nombre de 2600 sur 70 départements, avec 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et une délégation de services donc publics juteuse pour cette société. Selon quelques sources bien informées, le patron Éric Heudicourt, en 1999, est parti bille en tête. Eh bien, il a grossi, du moins sa société a grossi, et pas n'importe comment, parce qu'en se foutant totalement des conventions collectives et du code du travail, donc je dirais que c'est un vrai maconiste avant l'heure. La Roche-sur-Yon, maintenant, en Vendée, dans le 85, c'est la CGT de La Poste qui appelle les usagers, les usagères à prendre le mort aux dents contre les méfaits de la direction qui leur retombera inévitablement sur le dos, donc aux usagers et aux usagères, puisqu'en septembre, il est prévu une fermeture de bureaux dans les localités voisines. Dans d'autres, eh bien là, ils bénéficieront de 30 minutes d'ouverture. Ceci intervient après la fermeture d'une plateforme en décembre 2016 et un rassemblement est prévu le 17 juin à Bourg-la-Roche, donc toujours en Vendée. Pour finir également donc cette deuxième page, eh bien c'est à La Baule dans Loire-Atlantique. Là aussi, la population est mobilisée et ils ont pris le mort aux dents également, mais grave là, puisque figurez-vous que le maire et l'État ont vendu au groupe Veolia 5,4 km de plage de La Baule au Pornichet pour la gestion de cette plage et elle s'assurera ainsi les loyers des activités d'été. Alors, aux pétances des villageois, des villageois, je disais, contre une offensive donc du maire, contre cette offensive du maire, et qui propose, bien sûr, et il avait prévu, le monsieur, un plan B à Veolia, c'est de créer une société d'économie mixte locale, c'est-à-dire une SEML, qui se substituera à Veolia. Et le bénéficiaire sera, bien sûr, toujours Veolia. La chose est maligne. Donc pour une période de 12 ans quand même, hein. Donc il y a eu des manifestations, il y a, sur cette plage il y a quand même 35 établissements, hein, comme des restos, des clubs, des machins comme ça. Alors tout le monde gueule au charron évidemment, c'est-à-dire gueule après cette privatisation galopante remise entre les mains de Veolia. Voilà pour cette page de cette deuxième page de lutte.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Alors, du coup, je vais finir avec en mentionnant, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu ces derniers jours une polémique autour d'un festival organisé à Paris. Donc, c'est un festival militant afroféministe. Et donc, alors, le début de cette polémique, c'est qu'il y a certaines activités dans le festival qui étaient organisées en non-mixité. C'est-à-dire que... en gros, les activités étaient réservées entre guillemets pour les personnes concernées. Donc, c'est-à-dire, c'est une non-mixité définie. Donc, par exemple, une non-mixité de femmes, ça exclut les hommes. Une non-mixité de personnes racisées, ça exclut les personnes blanches. Alors, du coup, dans toute la polémique, ça a été lancé au tout début par F de Souche. Alors, du coup, c'est un média clé de l'extrême droite qui publie que des trucs racistes, fascistes, tout ce qu'on veut. Enfin, c'est vraiment un truc nationaliste, tout ce qu'on veut.
Qui pue.
Voilà, qui pue, tout à fait, merci. Et donc voilà, donc ils sont partis de ça pour alimenter des trucs pour dire. Pour dire oui, c'est raciste, anti-blanc, tout ça. Alors évidemment, nous, en étant anarchistes politisés, on vous répondra évidemment que non, c'est pas raciste, anti-blanc, dans le cadre, en fait, enfin, oui, c'est ça, dans le cadre d'un État qui est raciste, en fait, non, organiser des événements en non-mixité de personnes opprimées, c'est pas du tout raciste, même si c'est des événements qui excluent les Blancs, en fait, parce que, comme on l'a rappelé la semaine dernière, en fait, en faisant un retour sur le film qu'on avait projeté, y a des luttes, en fait, toutes les luttes viennent des personnes concernées d'abord, en fait, des personnes opprimées, c'est vraiment une autogestion en fait de ces revendications, de ces luttes, tout ça, et c'est pas aux Blancs de tout faire à la place des autres, c'est pas aux mecs de tout faire à la place des femmes. Donc voilà, nous on soutient de tout cœur le festival. Donc pour revenir, alors la polémique a été lancée par F de Souche, donc ce média de l'extrême droite. Ça a été repris par la LICRA, alors qui est censée être une organisation de lutte contre le racisme, qui du coup a complètement retourné le truc et s'est retrouvée dans une position complètement naze, quoi. Donc totalement décrédibilisée, les mecs, quoi. Et donc la maire de Paris s'en est mêlée en voulant faire appel au préfet pour interdire le festival. Donc au final, il y a eu débat, tout ça, interrogation, interview, machin. Alors au moment où on a demandé à la maire de Paris, Anne Hidalgo, de justifier d'où elle sortait ça, en fait, en lui disant mais c'est quand même elle de Souche qui a sorti ça, tout ça, sans commentaire. Elle a mentionné aucun média, tout ça, donc pour pas trop dire que c'était l'extrême droite.
Facho, quoi, voilà, ouais.
Donc voilà. Et donc en fait la solution intermédiaire entre guillemets qu'elle a gentiment proposée au festival, c'était de faire certaines activités en non-mixité, mais pas toutes. Donc ce qui est complètement con, enfin on va le dire, parce qu'en fait c'était ce qui était déjà prévu de base. Voilà. Donc voilà. Alors là, je vais pas m'étendre sur tout le déroulement de la polémique. Je crois que j'ai rapidement fait le tour. Il y a plein de nuances. Mais pour finir, je vais vous lire rapidement un article super cool sur la non-mixité, du coup, qui explique la nécessité d'avoir des luttes et des débats et des espaces de non-mixité dans le milieu militant. Alors, du succès historique du mouvement de libération des femmes, notamment pour le droit à l'avortement et à la contraception, à l'expérience presque unanimement saluée chez les concernés du récent camp d'été décolonial, la non-mixité a prouvé sa force et ses vertus. Cependant, elle soulève encore de nombreuses questions et critiques chez le grand public, notamment chez les non-concernés. Cela était évidemment à prévoir. Notre société étant patriarcale et oppressive, elle déteint sur nos éducations. Il n'est alors pas toujours facile d'avoir les clés pour saisir toute l'importance et la légitimité de la non-mixité. C'est dans le but de vous en expliquer les tenants et aboutissants que cet article est écrit. Que cela soit bien clair, nous évoquerons ici la non-mixité excluant les hommes cisgenres, c'est-à-dire... Alors cisgenre, c'est un terme qui désigne les personnes qui se définissent eux-mêmes par le genre qu'on leur a assigné à la naissance. Donc, c'est-à-dire, par exemple, moi, à ma naissance, on a dit que j'étais une femme et je me considère comme femme. Donc je suis cisgenre. Donc voilà. Alors, nous évoquerons ici la non-mixité exclure les hommes cisgenres, car c'est celle que nous pratiquons quotidiennement chez Simone Haye, donc c'est le site sur lequel je suis en train de vous lire l'article, et qu'un article exhaustif sur toutes ses formes serait très lourd. N'oublions pas néanmoins que d'autres non-mixités sont pertinentes et nécessaires dans d'autres contextes. Il s'agit d'un outil politique de lutte. Ainsi, il est possible d'ajouter ou d'enlever des catégories de personnes exclues selon les besoins du type de militantisme, transsexuel, antiraciste, tout ça. La non-mixité des dominants est la norme dans notre société. Nous parlons donc d'un combat féministe de base. La société est patriarcale. Cela signifie que les hommes cisgenres y ont le plus de privilèges, et de pouvoir, ce qui crée une oppression envers toutes les personnes ne rentrant pas dans cette définition. Est induit un profond déséquilibre dans le dialogue social et une non-mixité de fait, volontaire ou non, que nous pouvons observer dans la plupart des instances de pouvoir. Bon courage pour nous trouver un homme trans au gouvernement ou une femme rédactrice en chef d'un grand journal. Quand il ne s'agit pas d'une non-mixité totale, on retrouve une écrasante majorité cis masculine. Tout un ensemble de mécanismes sociaux empêche les femmes et les personnes transgenres d'accéder à certaines positions qui vont de l'éducation genrée à la pure et simple discrimination sexiste aux entrées de postes importants. Créer un espace pour les personnes silencées. Il faut cependant bien que ces personnes, exclues des milieux décisionnels et souhaitant faire progresser la société vers plus d'égalité, puissent s'exprimer sans être victimes de la tendance inéluctable qu'a le monde à tout rapporter aux hommes cisgenres et qu'ont les hommes cis à tout rapporter à eux, consciemment ou non. La parole leur étant refusée, la non-mixité permet de libérer et d'articuler une pensée sur les mécanismes oppressifs, loin de ces mêmes mécanismes. La non-mixité assure qu'aucun homme cis ne coupera la parole par habitude, n'imposera ses idées, ne remettra en cause la parole des concernés, ni n'exprimera tout l'ensemble du conditionnement problématique qu'il a subi face à ses concernés, étant déjà conscient et consciente des enjeux et souhaitant faire avancer le combat. Cette sécurité aide grandement les oppressés à prendre la parole et à ainsi faire profiter tout le monde de leur avis, souvent d'une grande valeur. Même de bonne volonté, les hommes cis auront une plus faible compréhension de tout un ensemble de thèmes que les militants et militantes n'ont pas forcément envie de définir à l'infini, ce qui prolongerait inutilement des discussions ayant pour but de trouver des solutions et non pas de réexpliquer les problèmes. Les personnes concernées par ces oppressions patriarcales sont malheureusement les plus aptes à saisir et à comprendre la réalité humaine du problème. Elles ont donc une parole extrêmement intéressante de par l'entrecoupement de leurs témoignages de première main ainsi que leur incapacité à s'éloigner du problème bien longtemps. Si on pouvait arrêter d'être oppressé le temps d'une année sabbatique, on le ferait, ne vous inquiétez pas. Il est alors important d'entendre ces voix documentées, conscientes, militantes, et c'est pour cela que l'espace non mixte est nécessaire, contribuant à créer un discours autrement caché par le débat public et mixte. Pardon. Au-delà même de son intérêt purement militant, l'espace non mixte permet à la féministe ou le féministe de souffler un peu, de se retrouver dans un environnement safe où il ou elle trouvera un soutien et une compréhension de ses problématiques. Il est bénéfique d'avoir l'occasion de se reconnaître dans ça ou son voisin ou voisine, plutôt que de faire face aux doutes épuisants d'avoir affaire à un potentiel oppresseur. Cette compréhension accrue des uns et une envers les autres permet aussi de trouver des solutions beaucoup plus précises à des problèmes liés au genre ou au sexisme en général. Parfois des problèmes plus quotidiens ou personnels, moins universels, mais qui ne méritent pas moins d'être résolus. Dans un monde de violence et de silenciation, il est nécessaire de se protéger, à la fois pour soi, mais aussi pour être un ou une militante plus efficace, car plus reposée si on le souhaite. La non-mixité militante existe en réaction au patriarcat. Elle permet de réguler la prise de parole. De nombreux hommes cis aiment crier au sexisme inversé, un mythe que nous prendrons sûrement le temps de déconstruire à l'occasion, imputant à la non-mixité une dimension misandre et présentant les femmes comme seules détentrices supérieures de la vérité. Or, il ne s'agit pas de refuser toute parole aux hommes cis ou toute légitimité dans leur questionnement féministe. Il s'agit simplement de dire qu'ils ont littéralement le reste du monde pour parler et être plus écoutés que les concernés et que donc, pour une fois, on aimerait être tranquille, merci. Il y a des espaces et des initiatives dédiées à la mixité militante, notamment dans des buts d'éducation pour aider à déconstruire la culture patriarcale. Si vous êtes un homme cis respectueux de la parole des concernés et ouvert à la remise en cause, la majorité des associations ou syndicats sont mixtes. D'ailleurs, Simonae est un magazine ouvert aux lecteurs cisgenre si vous souhaitez vous éduquer sur des sujets féministes. Simplement, pour une fois dans votre vie, votre avis ne comptera pas plus que le nôtre, ce qui fera du bien aux concernés, à nous et probablement à votre réflexion féministe. Donc voilà, alors évidemment, je mentionne quand même que tout ce qui a été dit se transpose aussi sur une non-mixité qui concerne le racisme, c'est-à-dire en excluant les personnes blanches, voilà. En fait, parce que c'est le même rapport, enfin, le même pas tout à fait, mais c'est quand même un rapport d'oppression qui est tout aussi important, en fait, dans la société d'aujourd'hui, et que les personnes racisées ont besoin aussi de s'organiser entre eux et entre elles pour déconstruire l'état raciste et tout ça. Donc évidemment que c'est légitime, évidemment que les blancs qui vont crier au racisme anti-blanc, bah c'est n'importe quoi. Et voilà.
Alors on fera sûrement un point un jour aussi sur le racisme anti-blanc, un point complet là-dessus aussi, enfin sur le pseudo racisme anti-blanc. Voilà, faut savoir que là la polémique elle est publique, elle est sur des personnes qui sont pas forcément formées, mais ce qu'il faut aussi entendre et comprendre, c'est que même dans le milieu militant et libertaire, eh ben, il y a aussi des gros débats moisis sur cette question-là. CF, ce qui s'était passé à Mille-Babor, à Marseille, on y reviendra peut-être. On vous lira aussi, parce qu'on va suivre un peu ce qui se passe dans la semaine, parce que ça a peut-être évolué un petit peu. Il y avait aussi, du coup, Juives et Juifs révolutionnaires qui avaient fait un communiqué plutôt pas mal sur le sujet, donc on vous le dira sûrement la semaine prochaine. Là, on va vous laisser, parce qu'il est déjà 9h03.
Oui, il y a du pain sur la planche.
On va vous laisser, ouais, carrément. Ouais. Puis, du coup, c'est bien de ce genre de texte de le rappeler à chaque fois, parce qu'à chaque manif non mixte, à chaque. Il faut toujours rappeler les choses, quoi. C'est très compliqué à chaque fois.
Oui, je voulais simplement rappeler, je l'ai pas fait tout à l'heure pendant mon compte rendu là de cette lutte de Ouibus. Ouais. Donc c'est les grévistes de Ouibus qui font un appel à soutien donc ce samedi 3 juin à 10h30.
C'est 10h30, ouais.
Ouais, voilà. Donc ils donnent rendez-vous à la gare routière Perrache pour donc constituer une force supplémentaire hein, à leur piquet de grève, à leur lutte. Donc voilà, ça se passe aux arrêts Ouibus, donc sous la passerelle. C'est la précision qu'ils avaient donnée parce que ça doit être un peu.
Parce qu'ils se remettent du coup en grève. Illimité à partir de samedi, donc allez les soutenir. Voilà, on rappelle juste vite fait du coup les horaires de permanence samedi 15h-19h, mercredi 17-19. Quoi d'autre, rien. Enfin, sur l'agenda, vu que c'est déjà un peu tard, on vous réécouterez l'émission du début. Voilà, sur le blog de l'émission, voilà pour les rendez-vous de la semaine et du week-end.
Tout à fait.
Voilà, on va vous laisser du coup.
Et bonne semaine et puis à mercredi.
Bonne soirée.
Salut.